lâcha une nouvelle fois les billes à travers le tissu de sa veste, tout contre lui sur sa poitrine. Ses jambes lui tiraient, son dos était comme percé de mille petites pointes. Cet argent qu'il portait sur son cœur, il aurait préféré l'avoir dépensé, il aurait moins mal. À présent, la nuit était trop longue, mais il savait qu'il tiendrait. La nuit était trop longue, mais il savait qu'il tiendrait. Des plus grands de vestales sans un piastre chancelant, je regarde les canelons et sa blanche jument. La colère pas peu fière et la rage en amont, le cigale minuscule me nargue gentiment. Je vais à la fenêtre et soudain je regrette d'avoir tué Chimère et marié canelon. Des drôlesses exquises aux maigres mamelons, comme un fruit de banquise aux accents tropicaux, je l'emporte du foie sur un air de malice et m'arrête transi, étouffé par le froid. Comme quand c'était encore vrai, comme quand c'était encore vrai, on y rit moins, alors on s'en va où l'on reste et l'on ne dort plus, ou mal. Sur son fil ou plutôt pendu par les couilles, mais plus de regrets ni même de méprise, et cent fois trop aimé pour garder la raison, et sous forme d'excuses plus que de confessions, qu'une dernière fois je muse sur cette sale chanson, dans l'ultime blasphème, celui de l'essai-choir, comme un vilain gravier, cet habit dérisoire. Je crois, si je ne m'abuse, qu'à la fin de l'histoire, cette triste comptine s'éteint de ma mémoire. Tiendrait. Son dos était comme percé de mille petites pointes. Petites pointes. Ses jambes lui tiraient. Il aurait moins mal.
Il aurait moins mal. Il aurait moins mal. Il aurait moins mal.
Comme percé de mille petites pointes. Sans doute comme percé de mille petites pointes. Sans doute comme percé de mille petites pointes.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
la musique.
Caravane à maximum.
Sa gueule, sa gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde. En région parisienne, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous avons un coplateau dans l'émission. Hein, on va parler comme ça. Pour parler d'un concert qui aura lieu ce soir, vendredi 12 mai, au Pan Piper, à Paris, dans le quartier au métro Philippe Auguste. Et donc, ce concert sera un coplateau avec Ghost Rhythm. Et pour représenter le groupe, nous avons Xavier Gélard.
Salut.
Qui en est le créateur. Salut Xavier. Et le méga octet de Andy Hemmler. Et ce sera, je crois, le concert de sortie du disque No Rush de ce grand ensemble méga octet, on dit. Hein,
méga octet.
Méga octet. Ben, merci à vous deux d'être là, Andy et Xavier. Xavier, tu étais venu il n'y a pas si longtemps, en juillet, je crois, dernier.
Écoute, c'était en juillet peut-être, mais en tout cas c'était pour présenter le festival Constellation qui a lieu sous l'égide de Jazz à la Villette, voilà, qui est un festival, on va dire, autogéré par les groupes qui y participent.
Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Mais carrément.
Pour la prochaine édition du festival. On va commencer par toi, Andy, si tu veux bien. Alors, tu sais, quand on invite les émissions dans l'émission des jeunes musiciens, je leur demande leur formation et tout ça. Et puis, quand on invite des plus anciens, des gens qui ont une carrière, bon, on évite de leur parler de leur formation parce que sinon, l'émission dure des heures et des heures. Mais il se trouve qu'en allant sur ton site, en regardant ta bio, il y a quand même quelque chose qui m'a fortement titillé. Et c'est cette prof de piano qui t'a terrorisé dans ta prime jeunesse. Et parce que tu sais qu'ici, on n'est pas très copains avec des formes de pédagogie poussiéreuses, autoritaires. Et du coup, je vais quand même te demander, est-ce que tu peux nous parler de ça?
Ah ben, je ne suis pas copain non plus, parce que j'évolue beaucoup dans la pédagogie depuis quelques années, 45 ans, 50 ans, je ne sais plus, même si je ne les fais pas. Mais c'est vrai qu'il y a encore, hein, bien sûr, ça existe, hein, faut pas déconner. Il y a plein de choses possibles aujourd'hui qui ne se pratiquent pas dans les écoles. Or, à l'époque, c'est juste, tu sais, une famille bourgeoise où tu as la prof qui vient donner son petit cours particulier. Or, cette femme était veuve et elle me disait, mais j'avais 5 ans, hein, elle me disait que si je ne travaillais pas mon piano, son mari qui était mort me rentrait la nuit dans les placards. Et donc, moi, j'entendais du bruit dans le placard la nuit, le bois qui travaille, tout ça, tu vois. Et je pleurais, et mes parents ne savaient pas pourquoi, tu vois.
Oh,
imagine le traumatisme. Et en fait, j'ai dit à mes parents un jour pourquoi je pleurais, et bon, bien sûr, on ne l'a plus jamais revu.
C'est extraordinaire.
Mais c'est terrible, tu te dis, ça existe, tu vois. Et ça doit exister encore, hein, forcément.
Ah bah oui, ça, voilà, le fantôme comme pédagogie.
Le fantôme comme pédagogie, tu sais, comme
ça. Ça me parle.
Ah, c'est fou. Ah oui, d'accord. Bon, alors, du coup, tu aurais pu être dégoûté à jamais de la musique, mais comment ça se fait donc que tu as persisté? Par quel biais?
Le hasard des rencontres, hein, sur un coup de fil par hasard, une femme incroyable qui était descendante d'une famille d'organistes, Marie-Louise Boelmann-Gigou. Il faut savoir que les organistes ont toujours été les improvisateurs dans l'histoire. Donc elle voit débarquer un gamin qui aime bien taper sur un piano et faire des choses qui ne sont pas écrites sur une partition. Ça ne l'a jamais choqué.
Ouais.
Alors par contre, elle s'est dit, lui, il a peut-être quelque chose. Elle m'a fait bosser, quoi.
Ah ouais, voilà.
Voilà.
D'accord. Mais alors, du coup, tu disais que tu étais pédagogue également. Qu'est-ce que cette mauvaise expérience, et puis toutes celles qu'on connaît tous, hein, d'ailleurs, que ce soit pas forcément dans la musique, mais à l'école, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Quelles idées, maintenant, tu développes en matière de pédagogie musicale? Ah
ben, écoute, dès les années fin 70, début 80, j'ai travaillé sur un système de signes pour diriger les gens. Parce que maintenant, il y a un autre système qui s'appelle le sound painting. Mmh. Les Américains nous ont piqué l'idée, bien sûr, parce qu'ils sont beaucoup mieux organisés que nous quand il s'agit d'exploiter quelque chose. Mais moi, à l'époque, c'était le système, c'était pour... J'en avais marre d'entendre les gens me dire « J'ai fait de la musique jusqu'à l'âge de 13-14 ans, et puis après j'ai arrêté parce que le solfège, je me gonflais, machin, etc. » Il y a toujours existé dans de la musique l'oralité, la transmission par l'oralité dans les musiques traditionnelles et partout. Donc, il y a aucune raison que dans les musiques intellectuelles, ça ne puisse pas se passer aussi.
Ouais.
Le plaisir d'abord, et la connaissance ensuite. Et le plaisir génère l'appétit de connaissance. Mmh. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et malheureusement, nous, en Occident, souvent, on est parti dans l'autre sens. Et ça fait 45 ans qu'avec le ministère de la Culture et l'Éducation nationale, on essaie de faire bouger les choses, et ils ne veulent pas que ça bouge. Ils n'ont pas compris que l'art, la culture sont des matières aussi respectables et importantes dès la maternelle à l'école, comme l'alphabet, comme le calcul. Quand ils auront compris ça, on aura une population différente. Mais ils n'ont peut-être pas envie qu'on ait une population différente.
Ah, ça,
c'est autre débat.
C'est un autre débat, mais moi, je suis assez d'accord, complètement d'accord, complètement d'accord avec ça, d'ailleurs. Alors, autre chose sur ton site qui m'a bien plu, c'est la mention en rouge. Alors, c'est même pas une mention, c'est écrit « avertissement ». Bon, je pense qu'il y a une petite distance quand même à avoir par rapport à ça, mais la mention, c'est « être libre par essence, il convient de n'enfermer Andy Emler dans aucune catégorie, case ou taxinomie musicale que ce soit ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Ça, c'est un journaliste qui s'appelle Ludovic Florin, qui est professeur de musicologie à la fac de Toulouse, qui a rédigé cette bio, parce qu'il en fallait une, et je voulais pas mettre le truc, tu sais, habituel, qu'on met partout dans les CV, les bios et autres. Et lui, il me suit depuis très longtemps, il est très fan, et il a bien vu que le problème des étiquettes en matière de musique, comme dans plein d'autres domaines, ça me posait un problème. Donc voilà, c'est juste, en effet, une espèce de warning. Attention les gars, si vous m'appelez jazzman, ou si vous m'appelez classiqueux, ou je sais pas quoi, ça va pas me plaire, quoi.
Ah bah très bien, parce que bon, on n'aura pas ce problème ici, parce que je crois que ça nous intéresse pas vraiment non plus de...
C'est pour ça que Xavier et moi on est là,
finalement. Bah oui. Bah oui. Alors on va pas retracer toute ta carrière, puisque en plus on a deux invités aujourd'hui, hein, mais on va plutôt essentiellement parler des formations actuelles, et en particulier du Méga Octet. On n'a pas dit le titre du morceau avec lequel on a commencé.
Oui, c'est le deuxième, je crois, du disque, ça s'appelle Think or Sink.
Donc, ouais.
Pense ou cool.
Ah, merci.
Voilà. C'est, tu veux, faut jamais trop chercher pourquoi les titres, hein. C'est toujours, on sait jamais, tu vois. Si tu commences à donner des explications, c'est un peu parfois tiré par les cheveux, là.
Ah, bah, tiens, bah, c'est
trois chauves que nous sommes.
C'est oui, parfait, oui. D'ailleurs.
Parlons pas de cheveux, s'il te plaît.
Non.
On parlera pas de cheveux aujourd'hui.
Pas de cheveux. Et ben, ça tombe bien que tu dis ça, parce que je vais justement te demander l'explication du nom de ta formation. Alors, moi, j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un octet, puisque méga. Mais après, je me suis dit, oui, méga, quand j'ai tapé méga octet, c'est aussi un terme d'informatique. Et de surcroît, j'ai bien vu que vous n'étiez pas 8 musiciens.
Mais 9.
Mais 9. Ah, voilà. Donc pourquoi méga octet ?
Bah, ça, plus qu'un octet.
Ah oui, méga octet.
Voilà, ouais, mais sauf que c'est vrai, le terme informatique, à l'époque, je me suis dit, ça c'est un mot que les gens vont voir partout pendant les 50 années à venir, tous les jours, et ils penseront à moi. Ça n'a pas marché du tout, mais au moins on a essayé, quoi.
Encore ce sens de la promotion.
Non, mais il y avait un copain à l'époque, Pierre-Jean Gaucher, qui avait créé un groupe qui s'appelait Abus Dangereux, je me souviens, et lui, il avait fait ce raisonnement-là, en disant, avec les paquets de cigarettes, il écrit Abus Dangereux. Sauf que personne n'écoute nos musiques ici, dans ce pays, personne n'en veut, donc...
tu vois, c'est... Personne n'en abuse.
Il n'y a que chez vous que ça existe, quoi.
Personne n'en abuse, oui, c'est vrai.
Personne n'en abuse, ouais, absolument.
Mais alors, tout de même, est-ce que vous avez été constamment neuf ?
Oui.
Alors, voilà, la question quand même un peu sérieuse, on va dire. C'est pourquoi ce nombre, c'est pas un big band, c'est pas une formation plus réduite, pourquoi 9 ? Est-ce que c'est lié à l'instrumentarium ? Est-ce que tu avais en tête un instrumentarium précis pour tes compositions ?
Je pense que Xavier pourra aussi répondre à la même question, puisque je crois qu'on est 9 aussi.
On est 9 aussi, mais nous, l'instrumentarium, c'est décidé par un processus d'essai-erreur, on va dire, plutôt.
D'accord.
Alors que toi, c'est là.
Moi, c'est plutôt l'humain. Ah oui. C'est les gens avec qui, à ce moment-là, tu as envie de monter un orchestre et tu as envie de jouer avec qui ? Avec des gens avec qui tu as fait ça, tu as fait ci, tu as des moments de complicité, tu as eu des moments historiques avec eux, un parcours, et tu te dis, ben voilà, on va réunir les potes et on va faire ça, quoi. Comme on fait des groupes au départ, tu sais, toujours. Là, c'est 9. Il se trouve que c'est 9. Il y a eu un petit catalyseur, je te cache pas. J'ai présenté l'ONG en 89. Et on m'a dit à l'époque que, monsieur Emler, vous n'avez jamais écrit pour un grand orchestre, donc on ne peut pas vous mettre à l'ONG. Ah. Bon, depuis, ils ont eu des chefs qui n'avaient jamais écrit, qui ne savent toujours pas écrire pour des grands orchestres, mais c'est pas grave. ça balance ce matin. Et donc, du coup, ça me dit, tiens, mais écoute, je vais écrire pour 9 musiciens. Mais j'ai choisi les potes, quoi. Tu vois, Anne Huenley, François Moutin, enfin les gens avec qui je travaillais, François Verly, avec qui je travaille depuis 40 ans. Voilà, des gens avec qui on a cette complicité, cette envie d'aller dans la cherchitude de sons, de trucs, avec le parcours aussi qui est un peu le même, c'est-à-dire des gens qui viennent du rock, qui viennent de la pop musique. Huenley, c'est autant Hendrix que King Crimson, que les Beatles, quoi, tu vois, que Stravinsky ou Miles Davis. Voilà, et tous, ils ont un peu ce parcours multiple, donc voilà.
Ah oui, je t'ai pas demandé, on en a parlé en antenne, c'est pour ça que je t'ai pas demandé là. Oui, t'es assez influencé par le rock, t'as influencé, je sais pas, mais.
Totalement.
Ouais.
Les pièces du Méga Octet, si tu prends tous les 10, ce sont des suites.
Ouais.
C'est jamais des morceaux isolés, pratiquement. Il y a toujours un lien entre les pièces, des citations, de l'humour, des planqués, des trucs, comme les fresques que faisaient à l'époque, les Yes. On parlait de Close to the Edge tout à l'heure, tu vois. Tu prends Yes, il y avait des morceaux au début.
Ouais.
Et puis après, c'est devenu des espèces de grandes fresques,
des
doubles albums. Voilà, et si tu veux.
Oui, donc c'est pas n'importe quel rock en plus, c'est rock progressif.
C'est un rock progressif, comme ça s'est appelé à l'époque. Ouais.
Ah oui, j'aime ça. J'aime
jazz
ça,
rock comme... progressif.
Oui.
Non, pardon. Jazz rock, c'était plutôt les groupes qui sortaient de chez Miles.
Voilà, c'est ça.
Les Chick Corea, McLaughlin.
Vishnu, tout ça. Ouais. Et alors, quelles étaient tes idées musicales quand tu as créé le groupe? Quelles idées musicales voulais-tu développer dans cet ensemble?
C'est difficile de fixer. T'écris de la musique, t'es un écrivain de la musique.
Mmh.
Tu as cette petite prétention de se dire, tiens, j'ai un peu de métier et j'ai envie d'entendre ça. J'ai envie de faire jouer ça, j'ai des idées et tu vas l'exploiter, tu vas l'écrire, tu vas... Faut dire, pour le Méga Octet, ça n'a jamais été... Tu sais, on est des groupes où on n'a pas des gros budgets pour passer un mois en studio pour répéter ou dans une salle de répétition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit de la musique qui se monte vite, qui peut être jouée, bien jouée, vite. Donc, il faut tenir compte aussi de ça. Ça, c'est malheureusement un paramètre que les compositeurs ne devraient pas avoir à tenir compte, mais ça fait partie de notre économie. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 jours de répète et on monte un programme. C'est ce qui s'est passé.
Mmh.
Et donc, tu écris une suite comme un compositeur, comme Yes ou Emerson, Lake & Palmer le faisait à l'époque, ou Genesis, en me disant, j'ai envie d'y mettre mes influences. Mes influences, c'est quoi? C'est le groove, c'est un travail sur l'écriture contrapuntique, harmonique, c'est un travail sur la forme, c'est tous les paramètres qui rentrent dans le mot composition, qui font que ben voilà, tu mets en place tes idées.
Alors, mise en place rapide, mais alors, en écoutant ta musique, j'ai quand même pas l'impression qu'elle est pas simple. Elle est pas... C'est pas du 4-4, c'est pas du...
Non,
tu vois,
c'est sûr qu'il faut ben, t'écouteras celle de Ghost Rhythm, il faut des pointures pour la jouer, cette musique, tu vois, c'est...
Ah oui, c'est ça,
voilà, il faut des pointures, donc tu choisis aussi. Faut pas oublier que l'interprète, que ce soit en musique classique, en musique contemporaine, en jazz ou autre, la personne qui joue ton projet, qui est dans ton projet, elle a besoin de nourriture aussi.
Mm-hmm.
Elle a besoin de nourriture, ça veut dire qu'il faut à la fois amener ce que tu as envie d'amener, en toute démocratie, n'importe quel musicien peut intervenir en disant « Je ne suis pas d'accord, on pourrait faire ça, on ne pourrait pas faire ça. »
Mm-hmm.
Mais il faut aussi qu'il y ait un challenge instrumental, qu'il y ait une mise en valeur de l'instrumentiste. Tout ça sont des paramètres dont on tient compte dans l'écriture, qui fait que, au bout du compte, si en plus, musicalement, le résultat est satisfaisant, le musicien adhère au projet.
Mm-hmm.
Alors, dans le Méga Octet, ils sont tous chefs d'orchestre d'un projet.
Mm-hmm.
Donc, ils savent très bien où tu veux en venir. Mmh. Si tu veux, c'est ça l'avantage, quelque part.
Dans plusieurs projets, même. Hein.
Ouais.
On en reparlera après. Depuis sa création, donc, il y a eu de nombreuses... Donc, création 1989.
Oui.
Il y a eu de nombreuses innovations esthétiques. On parlait du hors antenne, du rap, ou technologique, dans la musique, alors le numérique et tout ça. Et je voudrais savoir si tes créations, dans le cadre du Méga Octet, s'en nourrissent-elles?
Alors, au départ, c'était un orchestre où il y avait des synthés.
Ah ouais?
Ouais. Huenley, à la guitare, a amené des synthés, préparé des boucles, préparé des effets.
Très marrant.
Du multiple guitare. Moi, j'avais 4 claviers autour de moi. Je me suis ruiné le dos, transporté le matos comme ça pendant des années.
Est-ce que tu avais une cape aussi?
T'avais
une cape aussi?
J'avais pas la cape à la Whit Blackman, non, pas du tout. J'avais pas le bide non plus. mais c'est vrai que, alors contrairement à beaucoup, si tu veux, moi je suis parti de l'électrique pour revenir vers l'acoustique, pour des raisons physiques.
Ah ouais.
Parce que transporter un Fender Rhodes à bout de bras dans les escaliers pendant 15 ans, bah, tu fais ça, puis après t'arrêtes. Quoi.
Ah, c'est ça que je voulais te demander, parce que dans tes groupes les plus récents, tu joues du piano.
Ouais.
Ouais, d'accord.
Je me suis mis au piano sérieusement il y a, allez, même pas 10 ans.
Ah ouais, d'accord.
Je commence, je suis débutant.
D'accord.
Plein de choses à apprendre.
Donc, du piano dans le disque No Rush. Donc on va écouter un morceau, le morceau éponyme. No Rush, qu'est-ce que ça veut dire No Rush? Pourquoi avoir surtout donné ce titre?
Ben, on a tendance, nous en Occident, à prendre des décisions rapides, à foncer comme des malades sans se réfléchir. Et spécialement en France, pour s'apercevoir qu'on n'a pas fait pas pris le bon chemin, qu'il faut rebrousser chemin et que ça a coûté une fortune pour rien et qu'on va prendre le bon chemin 10 ans plus tard. C'est un constat qu'on voit dans plein de domaines. Là, à notre époque où tout va super bien, comme tu le sais, hein, je dis attention, posons-nous.
On est des marques, oui.
Posons-nous 2 secondes et puis réfléchissons 2 secondes avant de s'embarquer encore sur des mauvaises pistes, quoi.
Ouais. Et t'as des exemples de ça, de rush dans la politique culturelle, parce que c'est ça qui...
Dans la politique culturelle, je sais pas vraiment, mais dans la politique en général, ouais, ouais. Bien sûr.
On va y revenir. Ouais,
non, ouais. Mais voilà, je prends un exemple. Ouais. Dans l'urbanisme de tous les jours, on voit des travaux partout, dans les capitales et autres. J'ai eu un exemple récent où un travail a été fait pour faire des pistes cyclables et autres. Et puis ils se sont aperçus au bout du compte que les deux bus ne passaient pas face à face parce qu'il n'y avait plus d'espace. Il y a des ingénieurs, donc c'est le boulot de prévoir ce genre de choses. Et donc on casse tous les travaux pour recommencer. Ouais. Ça coûte je ne sais pas combien, c'est difficile à vivre pour tous les gens qui sont du quartier. Tout ça parce qu'un mec peut-être a bu trop de pinard à midi et a oublié 2 centimètres quelque part, quoi, tu vois. Mais ça, c'est très français, c'est très latin, quoi, ce truc-là. Quoi,
tu vois. On parlait de cinéma hors antenne, tu connais l'histoire du Grand Rex?
Non.
Quand ils l'ont refait? Ah ben ils l'ont refait, c'était super. Ils avaient juste oublié une cabine de projection.
Ah yes.
Ah la vache.
Génial.
Ah ouais,
ouais. Voilà, quoi, ça fait partie du quotidien. Il y en a des milliers d'anecdotes qu'on peut citer.
C'est clair. Alors, on écoute No Rush. Du méga octet de Andy Emler, extrait de l'album No Rush. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, avec aujourd'hui Andy Hemmler et Xavier Gélard. On vient d'écouter No Rush, de l'album No Rush du Méga Octet. Alors Andy, on va quand même dire quel est l'effectif actuel de l'ensemble des musiciens qui participent au disque No Rush.
Alors, en commençant par les souffrants, les soufflants comme on dit, on a Laurent Blondiot, qui est trompettiste de Bruxelles, Guillaume Orti, saxophone alto, Philippe Selam, saxophone alto, Laurent Dehors qui joue les clarinettes et saxophone ténor, parfois de la cornemuse, mais je crois qu'il en joue dans cet album. Et François Tuilier au tuba, gros et petit tuba. François Verly qui fait marimba, percussion, tabla, qui fait tout ça. Éric Echampard à la batterie et Claude Chamichian à la contrebasse.
Ah ouais, quand même. Et oui, c'est quand même une belle distribution. Hein. Et est-ce que parmi eux, il y en a qui sont là depuis longtemps? Est-ce que tous sont là depuis longtemps? Est-ce qu'il y a un turnover?
Eh ben écoute, François Verly, par exemple, percussion, on a commencé à travailler ensemble en 75.
Ah oui.
Où on reproduisait les groupes comme Return to Forever, le jazz rock de l'époque, on disait, tu vois, Mahavishnu et compagnie, dans une cave à seau où j'emmenais mon Fender tous les samedis, à bout de bras, et on avait monté un groupe qui jouait ces musiques, et on a composé comme ça pour ces musiques, 76, donc tu vois, on est, lui est là depuis le début.
Ouais.
Le groupe a été créé en 89, Philippe Selam est là depuis le début aussi.
Ouais.
Là, on retrouve Nuenley qui était là au début, mais qui est revenu pour cet album, en invité, et sinon les autres, ça a été un turnover. Oui, il y a eu plus de 60 musiciens qui ont tourné dans l'orchestre.
Ouais. Alors, tu as composé No Rush.
J'ai même eu des filles. Hein.
C'est vrai.
Sérieux.
Ah ouais.
Tu as composé No Rush en 2020. On en reparlera de ça. Oui,
bien sûr.
Et ce répertoire a-t-il un rapport avec ces parenthèses dans nos vies que furent les confinements?
Total.
Ah ouais.
Écrire pour le Méga Octet a toujours été un truc simple. Parce qu'il y avait un systématisme dans la forme, c'est-à-dire que chaque pièce est dédiée à un soliste.
Okay.
Donc tu prends ce systématisme et tu demandes aux musiciens, avant d'écrire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Fonction de ce qui s'est passé sur l'album d'avant, Laurent Dehors me dit, moi je voudrais une belle balade pour clarinette.
Ah oui, d'accord.
Ou Laurent Blondiot, il me dit, moi je voudrais un truc free à donf avec la rythmique qui groove derrière. Et bon, ils me donnent leur doléance, si tu veux, et moi à partir de ça, j'écris. Là, le confinement, ça a été l'occasion d'avoir du temps. Et donc, tous les matins, pendant 3 heures, sur YouTube, qui est une espèce de bible où on trouve tout, je me suis cultivé la tête à écouter le XXe siècle.
Ah ouais.
De Peter Gabriel à Luto Slavski, en passant par Stravinsky, Varese, et les contemporains d'aujourd'hui, en matière d'écriture classique. Malheureusement, qui ne mélange pas avec nous, beaucoup, mais voilà. Et donc, ça m'a nourri de plein de choses. Et on a eu l'occasion, puisque les confinements nous permettaient de répéter quand même. On avait le droit de répéter, même si on n'avait pas le droit de faire de concert. Nous, non, mais les grands artistes de variété français, eux, ils avaient le droit. Mais nous, on n'avait pas le droit. Nous, on pouvait jouer devant 30 personnes sur minimum 10 mètres carrés, je crois, un truc comme ça. Et en même temps, tu avais 3000 personnes au Trocadéro pour Bruel, machin, etc. etc. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. Et si tu veux, oui, forcément, ça a permis d'écrire un premier jet qui était très écrit, triste, et pas festif du tout. Donc pas du tout dans les couleurs du Méga Octet. Il n'y avait pratiquement pas d'impro dedans.
Ah ouais.
Terrible, ça. Et ensuite, bon, j'ai remanié, et après 2-3 fois, ça a pris 5-6 mois pour que ce soit... Il y a à peu près 26 pièces qui ont été jetées pour en garder 8, là, tu vois.
Ah, d'accord, ouais.
Ouais. Ah oui. Ça s'est pas fait sans mal, ce coup-ci, très curieusement. Je pense que quand tu te nourris la tête de plein de choses, ben, t'as plein d'influences. Et t'as envie de t'en servir, tu vois. Et le problème de s'en servir, c'est que ça n'a pas le temps de mûrir. La créativité, ton petit muscle dans la tête, c'est un truc qui s'entretient comme un sportif. Donc il faut gratter, prendre le temps que ça mûrisse. Et là, j'avais envie de jouer tout de suite le truc. Tu vois. On était tellement... On n'a pas joué pendant tellement de temps.
Quoi, tellement frustré, bien sûr.
On a eu besoin de jouer, et donc ça, voilà, ça a permis ça, en tout cas.
Alors, est-ce qu'il y a des idées musicales que tu as développées dans cet album dont tu voudrais parler, ou un thème, un concept qui a inspiré tes compositions pour le disque, en dehors de ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire l'écoute des compositeurs du XXe siècle?
La motivation est toujours la même, c'est j'ai envie que tout le monde prenne son pied. Du compositeur, le mec qui écrit, voilà pourquoi je mets des citations planquées parfois, parce que ça me fait marrer, quoi. Et ensuite, les musiciens qui le jouent et ceux qui vont l'écouter derrière. Il faut que tout le monde prenne son pied. Et surtout les musiciens qui jouent, parce que si t'arrives avec un truc... Et ils m'ont dit d'ailleurs, ils m'ont dit, pourquoi pas un répertoire écrit pour une fois, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Mais non, ça justement, on a dans nos talents, dans nos bagages, on a ce côté improvisateur qui envoie une énergie de dingue quand il est dans un truc qu'il aime faire. Et je peux pas enlever ça des musiciens du jour au lendemain, parce que mon intellect et mon ego a décidé que, tu vois, c'est des conneries. Ouais.
Et alors, tu vois, là, dans cette période de confinement, il y avait quand même une ambiance. Je voulais savoir si au-delà du confinement, plus généralement, est-ce que le monde et la vision politique que tu en as ont-ils une influence dans tes créations?
Bien sûr. Bien sûr. Toute la nourriture pour le musicien qui écrit, elle vient de l'extérieur. Sinon, c'est que le gars, il est génial, quoi. Il y en a, hein. Il y en a qui n'ont même pas besoin de réfléchir. Ils écrivent comme ça, direct et tout. Mozart faisait ça. Moi, je suis incapable de faire ça. Moi, si j'ai pas ma nourriture extérieure, c'est ce qui va mal, c'est ce qui va bien, l'amour, c'est l'émotion, c'est la rencontre avec les gens, c'est tout ça, c'est d'aller au concert, c'est d'aller voir des expos, c'est d'aller nourrir la tête. J'écris la super musique quand je suis dans un bistrot avec 25 personnes qui parlent en même temps, et nostalgie à donf derrière, quoi.
Ah oui.
C'est con, hein, mais c'est là que j'écris la meilleure musique, parce que c'est vivant, que l'endroit est vivant.
Ah oui, d'accord.
Alors moi, j'étais accro au bistrot de mon village en Seine-et-Marne, et c'est dangereux. Parce que les potes, t'as 10 potes, tu bois d'hiver, quoi.
Ah oui.
Donc faut faire gaffe, quoi, c'est dangereux. Mais en même temps, on n'est pas les premiers, hein. Combien ont écrit des bouquins, se sont inspirés de l'humain et de ce moment social qui est incontournable pour trouver ton inspiration. T'es tout seul devant ta feuille blanche et tout d'un coup, tu vas aller te faire un petit sky avec les potes, et tout d'un coup, l'idée, elle vient, quoi.
Ah oui.
Alors que t'as passé 3 heures à pas en trouver une seule idée, quoi. C'est curieux, hein. Alors j'ai un petit carnet avec moi avec des portées et je note tout dedans, comme ça reste.
Ah, génial. Oui, du coup, c'est vraiment dur pour toi le confinement dans ce sens-là aussi, puisque tu pouvais pas générer de musique à partir du social.
Non, non. C'est pour ça que c'est devenu une musique très intello,
ouais, je comprends, ouais.
Très écrite, et que le côté festif avait disparu complètement.
Ah oui. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que tu parles de l'aspect politique tel qu'on le conçoit nous ici, c'est-à-dire la vie dans la cité, pas le...
Oui, bien sûr.
Pas, tu sais,
bien
sûr. Pas le fait de mettre un bout de papier une fois dans une boîte, une fois tous les 5 ans, ces conneries-là. Et ma question, elle était aussi par rapport à ça. Tu vois, en ce moment, par exemple, il se passe des
bien
choses.
Sûr, bien sûr, ça nous...
Est-ce que ça va générer des...
C'est clair, bien sûr.
Ouais.
On joue pas de la même façon une impro quand tu viens de mater les nouvelles. Bon, d'ailleurs, faut plus les mater, mais j'ai fait, pour te donner juste une petite anecdote, excusez-moi.
Vas-y.
Un séminaire, j'avais fait un film, on a fait un film sur le méga-octet qui s'appelle Zikocratie, qui est un long métrage sur la hiérarchie et comment ça fonctionne chez nous, les groupes. Il y a eu plein de témoins et tout, de gens qui sont venus nous interviewer et nous voir travailler. Et ça a été diffusé pour un truc de BFM, un truc de cadre de BFM TV.
Ouais.
Et donc, il y a eu un débat après, et puis je leur ai dit, si vous passiez 1 heure par jour de bonnes nouvelles, mais on sait que c'est à tel créneau, tel jour, tous les jours, ça ferait du bien aussi. Et le mec s'est levé, le patron, il m'a dit, si on passe 1 heure de bonnes nouvelles, on ferme la boutique. Tu vois ce que je veux dire? Pour te dire que les médias aujourd'hui sont dans l'alimentation de cette peur, de ce qui nous ronge, et que rarement on balance des choses qui font du bien, parce que ça fait de l'audimat, hein. Il y a une société de voyeuristes et autres, et les politiques aujourd'hui pour moi sont des gens nuisibles, parce que avant il y avait un vrai engagement citoyen pour aller faire des choses, faire bouger la société. Aujourd'hui, c'est des jobs, quoi. Mmh. Les gars, ils sont là, ils se sont votés des retraites à je sais pas combien, à 50 ans, au Parlement européen, il y a pas longtemps. Personne n'en a parlé. Et les gars, ils étaient tous d'accord, sauf qu'il y avait plus de politique, là, entre eux, là. C'était, ouais, ouais. Tu vois. Donc, faut. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle est en train de se faire marcher dessus, quoi.
Eh ben oui.
Elle est en train de se faire marcher dessus. L'humain n'a plus son mot à dire. Donc, et ça va être de pire en pire, puisque arrivent les robotiques, l'intelligence artificielle, tout ça, oui, qui vont nous exterminer ou nous manipuler bientôt. Oui. Et ça, je pense que c'est dans les 20 années qui viennent. Hein. C'est la science-fiction est là à nos portes. Hein. Donc, nous, on aura toujours ces gens, comme Xavier, moi, et plein d'autres, qui avons ce truc de se mettre devant un instrument et de jouer. Et de jouer simplement que ce mot, qui, ça veut dire jouer, c'est comme des gamins avec des jouets. Nous, on a continué à faire une profession où on joue. Mmh. On joue, ça fait du bien de jouer, ça fait du bien de transmettre. On est là pour transmettre du bien. La culture est une des choses les plus importantes au monde pour ça. Les politiques ne l'ont pas compris, ne veulent pas le comprendre volontairement parce que ça dérange. Si tu es cultivé, tu es quelqu'un qui pense. Si tu es cultivé, tu as un sens de l'imaginaire, de la curiosité, mmh, un sens critique. Et là, tout d'un coup, ça devient... Je parle pas de complot, hein. Je pense qu'ils, non, le font en totale inconscience, parce qu'ils ont une cupidité, une soif de pouvoir qui fait que dès que tu es un petit employé municipal qui devient un élu du jour au lendemain, ils te parlent plus de la même façon, mmh, dans une petite commune de 3000 habitants. Donc ça transforme le pouvoir, tu vois. Donc,
ouais, voilà, c'est ce que tu disais sur la hiérarchie, quoi. C'est vrai que ça transforme les relations de fond en comble.
Oui, totalement. Mmh. Je pense que ce système pyramidal où on confie à une personne le pouvoir de décider comment les autres doivent vivre, mais c'est passé complètement, c'est fini depuis longtemps. Mmh. Or, on est en plein dedans toujours, quoi, tu vois. Mmh. Et on voit le résultat. On a un président qui se fait huer, qui est arrogant et tout. C'est parce que les gars, ça leur monte à la tête. Ils décident pour le monde entier. Ils décident ce qui va se passer dans un pays de 65 millions de personnes. Oui. Mais de quel droit ce mec-là, il va décider? De quel droit l'autre, il envoie des jeunes se faire massacrer, mmh, à envahir l'Ukraine alors qu'il est dans son bureau tranquille, quoi. Mmh. C'est, pour moi, ce principe-là est totalement dépassé. Mmh. Mais on n'a pas inventé mieux que la démocratie pour l'instant. Alors?
Ah, il y a plusieurs formes de démocratie. Alors, ouais, moi j'aime bien tout ce que tu dis. Ça me parle notamment, tu sais, au niveau de la curiosité aussi qu'on brime chez les gens. Hein, moi, je dirais, et c'est le sens de la présence de notre émission sur Radio Libertaire. Mmh. Hein, des fois, on nous dit, mais qu'est-ce que vos musiques bizarres, elles ont à foutre avec l'anarchisme. Et ben, moi, je trouve que vraiment,
c'est engagé.
Il y a un lien. Quoi, oui, y a un
bien
lien,
sûr, qu'on est engagé. Si on faisait pas ça, on ferait de la variette comme tout le monde et on ferait peut-être de l'argent.
Ah oui.
Et on serait pas des militants, on serait.
Tu vois, je vais faire ça, moi d'ailleurs.
Tu vois, pourquoi pas. T'es jeune, t'as le temps de faire du fric.
Ouais, ouais. J'ai besoin de fric, c'est bon.
Deviens cupide, fais de l'argent. Enfin, avec trois accords parfaits, tu peux, ouais, faire fortune,
c'est
tu sais.
Sûr.
Alors, pour. Tu vois, la question, là, elle est un peu. Du coup, je sais pas si. Je l'avais pas écrite chez moi, je te la poserai parce que, bon, pour avoir vu le méga octet à la Villette, il y a 4 ou 5 ans,
ouais,
il y avait une forte énergie, beaucoup d'humour, en un mot, une positivité, quelque chose d'assez optimiste. Et là, tu nous parles d'un avenir, tu nous as parlé d'un avenir pas forcément reluisant.
Non, il n'est pas reluisant, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait aussi ce qu'on fait. Mmh. Tu vois, c'est... maintenant, on est tributaire, tu posais la question tout à l'heure, Christophe, de notre entourage. Notre nourriture, elle est extérieure. Et donc, forcément, quand on voit tout ce qui va pas bien, ça influence sur l'écriture de ce qu'on donne, forcément, si tu veux. On peut aussi écrire des jolies ballades et fermer les yeux, ne pas allumer la télévision et dire, voilà, je reste dans mon petit univers à moi et je vais continuer à faire ma petite musique en espérant que rien ne me touche, quoi. Tu peux pas vivre comme ça aujourd'hui. C'est plus possible. Je dis pas qu'il faut avoir une télévision. Je suis très critique là-dessus aussi. Mais je pense qu'on fait partie des gens qui avons un message à faire passer beaucoup plus important, bien que toutes les époques ont été importantes, mais aujourd'hui, parce que la culture est... on tire l'intellect vers le bas volontairement aujourd'hui par une industrie, ne serait-ce que de la musique, qui a pris le dessus sur toute la création. Même au niveau argent public.
Oui.
Je veux dire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des scandales qui se passent Pourtant, nous, on est conventionnés, tu vois, donc on n'a pas à se plaindre. Oui. On peut générer des subventions qui permettent de payer des artistes, qui permettent de payer des répétitions et de faire ce qu'on fait. Sinon, personnellement, moi, j'ai 65 ans. Si je n'étais pas conventionné des DRAC, Île-de-France, machin, région, et si je n'avais pas les ACIDIC, je ne pourrais pas vivre de mon métier aujourd'hui. Oui. Après 45 ans de métier où tout le monde me dit « c'est super ton travail », etc., aujourd'hui, je ne peux pas vivre dans mon travail si je n'ai pas les aides.
Ouais.
Donc, voilà, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il, quoi ?
Ouais, ouais, carrément. Puis c'est un système insidieux, parce que... Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble que le CNC, par exemple, ça... L'idée, c'est quand même... Enfin, c'est quand même de valoriser ce qui peut rapporter. Et du coup, ça fait un circuit fermé vraiment délétère, quoi.
On est dans une société comptable, aujourd'hui. C'est-à-dire que les élus passionnés de culture, aujourd'hui, sont devenus des élus comptables. Tu remplis ta salle, t'as droit aux subventions. Tu remplis pas ta salle, t'as pas droit aux subventions. Ouais, tu veux remplir ta salle, tu programmes un truc qui remplit. Tu mets Gad Elmaleh, tu mets Bruel, tu mets Cabrel, tu mets une comique ou deux, et puis éventuellement un concert classique et un petit concert de jazz éventuellement. Et t'es sûr de remplir ta salle et d'avoir tes subventions.
La musique, tu sais, des spectacles de musique à vocation comique, ça marche pas mal.
Oui, oui, ça aussi. Bien sûr.
J'avais vu dans la ville où j'habite, Joby Joback. Enfin, j'avais pas vu, mais j'avais vu l'affiche Joby Joback. Donc, j'imagine du Bach à la mode gitan.
À la mode gitan, oui, bien sûr. mais t'en as plein. Hein. T'en as qui vont chanter les grands airs d'opéra avec de l'électro. L'idée de toucher un grand public, ça se dit toujours tout le monde, tu vois. Nous, on adorerait toucher du grand public.
Ouais, bien sûr.
Mais le grand public ne veut pas de nous parce qu'il n'est pas informé que ça existe.
Voilà.
Et on ne veut pas l'informer que ça existe. Parce que si on l'informait que ça existe, il le serait. S'il faisait de la culture dès la maternelle à l'école, il aurait l'esprit ouvert, il irait chercher, il irait fouiller. Tu prends beaucoup de rappeurs, font des choses formidables. Ouais. C'est pas forcément le rap qu'on entend.
Ah bah non.
Hein? Mais par contre, t'as des créateurs, t'as des mecs qui font des trucs formidables. Dans des mix, moi j'allais dans les cités à Juvisy-sur-Orge pour travailler avec des jeunes qui n'avaient pas accès au conservatoire et tout, qui voulaient pas y aller. Ouais. Mais les mecs sans aucune connaissance, ils me sortaient des sons où il y avait un mix de cuivre, de rythmique, de texte et tout, c'était grande classe, quoi.
Ah, oui.
Comme quoi, tu vois, l'institution, peut-être, le conservatoire, j'avais même proposé que ça s'appelle des ouvertoires à un moment, et tout le monde s'était foutu de ma gueule, quoi.
C'est bien, ça. Bon, allez, on va écouter un peu de musique. Alors, good timing, je sais pas si ça veut dire le bon temps ou le bon tempo.
Ah, tu peux prendre comme tu veux, dans les deux sens.
Ça tombe bien.
Dans les deux sens.
Good timing du Mega Octet, extrait de l'album No Rush. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques bizarres, inouïes, hors normes, j'aime bien dire aussi. Et aujourd'hui, nous recevons Andy Emler, qui nous parle de la sortie du disque No Rush de son méga octet. Alors, Andy, la question qui fâche, désormais, c'est une bonne chose, c'est celle de la présence des femmes dans les orchestres.
Oui, oui. Bien sûr. Pardon, je touchais le fil peut-être.
C'est ça. Oui. Et tu sais qu'on m'a récemment reproché, une jeune musicienne, de ne pas la poser aux hommes.
Si, il faut la poser, bien sûr.
Bah oui, bon, alors après. Mais là, je vais te la poser à toi pour deux raisons. Parce que d'une part, tu as une certaine expérience et tu as vu l'évolution de ces questions-là dans nos musiques, hein, puis dans la musique en général. Et puis ton orchestre, disons-le, n'est pas tellement féminin. Alors je me permets de te demander, quelle est ton opinion sur ces récentes prises de conscience, d'ailleurs ?
Bah, tant mieux, hein. Je veux dire, moi je suis 100% dans le mouvement pour la présence de femmes. Maintenant, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Le problème de nos politiques, c'est qu'une fois de plus, ils veulent que ce soit radical, du jour au lendemain. Et je reçois des coups de fil d'artistes, de nanas que je connais, formidables, qui me disent, ça fait chier. On m'appelle pas parce que je suis une grande artiste, on m'appelle parce que je suis une femme. Et donc ça, c'est le résultat de l'excès. Tout de suite, ils ont monté des commissions au ministère où ils ont mis des gens incompétents qui disaient « t'as pas de femme dans ton orchestre, t'as pas de subvention
ouais. ».
Ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu... on l'a vu hein, dans la musique classique, partout, ça, dans plein de professions, ça va prendre du temps. Ça, c'est lent. Heureusement qu'il y a eu des déclenchements ouais. qui ont provoqué cette réaction, et je suis pour que ça continue, parce que beaucoup d'hommes se sont très très mal comportés par rapport à ça. Abus de pouvoir total, quoi. Et de quel droit, tu vois, de quel droit. Mais c'est historique, on ne va pas remettre en cause l'histoire de l'humanité, mais tant mieux. Voilà, sauf que du jour au lendemain, on me dit, Andy Emler, ton méga octet, c'est 9 musiciens, il n'y a pas de filles. Et puis, vous êtes vieux. tu vois, donc quelque part, je suis là, je dis, mais écoute, il n'y a pas de filles parce que je suis complice avec les neufs depuis 30 ans.
Ouais.
Et vous me demandez aujourd'hui de changer, de virer des musiciens qui je suis complice depuis 30 ans pour recommencer à zéro avec d'autres musiciennes que je ne connais pas. Donc vous mettez en danger mon projet artistique. Je croyais que les instances culturelles étaient là pour défendre l'artistique. Alors je leur ai mis ça devant les yeux. Et ils m'ont répondu oui, sauf qu'aujourd'hui, je nisse mes parités.
Ouais.
Alors donc, je suis désolé, mais il n'y a pas la parité, il n'y a pas le jeunisme dans l'orchestre. C'est un choix humain. Si à l'époque où j'ai remonté le méga octet, il y avait des filles avec qui moi je travaillais, etc., ben elles seraient dans l'orchestre, bien sûr.
Ouais.
C'est pas, il n'y a pas une volonté d'exclure qui que ce soit, tu vois.
Ouais.
Mais non, c'est juste que ça prend du temps. C'est tout. Mais nous avons tendance à être excessifs, comme d'hab. Et en même temps, pourquoi pas ? Parce que ça permet d'accélérer un processus.
Voilà, c'est ça l'idée.
Aussi, bien sûr.
Ouais.
Tu vois, on dit souvent aussi la parité, la place des blacks, la place des rebeux, la place de la société française. Bon, quand ça a été le foot en 98, tout le monde était à l'unisson, génial.
Ouais.
Et puis après, t'as 50% des Français qui votent Le Pen, quoi.
Ouais, ouais.
Donc on est en droit de se poser des questions sur la sincérité de ceux qui aiment le foot.
Ouais.
Parce que quelque part, on est devant un sport de tricheurs, quoi, qui est le plus populaire au monde. C'est le seul sport où les gens critiquent l'arbitre, c'est le seul sport où les gens trichent, font des simulations, qu'on a même interdit de diffuser en ralenti sur des grands écrans pour pas montrer que l'arbitre s'est planté.
Ouais.
Alors, bref, je sais pas pourquoi je parle de foot.
Vas-y,
ça
t'arrive.
Ça me plaît. j'ai perdu totalement le fil. C'est le mec qui m'a dit, vas-y.
Mais tu disais que tu avais eu des femmes dans ton orchestre quand même.
Oui, oui, bah, il y a eu des passages de chanteuses, il y a eu Élise Caron, il y a eu Géraldine Laurent qui est venue.
Oui, oui.
Plusieurs fois aussi, remplacé parfois, tu vois.
Parce
que Géraldine est une amie et c'est quelqu'un qui est... C'est une formidable musicienne, tu vois. Donc, c'est sûr que j'aurais rencontré Géraldine il y a 30 ans. Peut-être quand elle avait 2 ans, ça aurait été un peu tôt, mais...
C'est marrant, j'ai travaillé avec Géraldine...
Ouais, c'est...
Je faisais des interventions au milieu scolaire et elle était là pour... pour deux séances à présenter son saxophone.
C'est ça.
Elle est géniale.
Mais bien sûr qu'elle est géniale.
Hyper pédagogue, super sympa et vachement dans la transmission.
Et elle est dans la transmission et elle a une culture générale très très ouverte, phénoménale. C'est ce que je reproche un petit peu, tu vois, c'est le... Je regardais l'autre jour les victoires du jazz, parce qu'il y a les victoires de la musique, ce qu'on appelle les victoires de la musique, c'est celle qui rapporte, mais après on met victoire de musique classique, victoire du jazz. Ouais. Victoire de la musique, c'est ce qui est la pire. La pire musique, c'est la victoire de la musique.
Ouais, c'est vrai.
C'est terrible, hein, c'est... tu vois. Et encore heureux, nous, nous appelle le spectacle vivant. Ouais. Comme si on était mort, tu vois. Mais bon, c'est... dans ces victoires du jazz, j'ai regardé des trucs. Alors, bien entendu, 80% c'était des filles qui recevaient des prix, et tant mieux. Mais attention, parce que il y a aussi des gens qui composent en début de carrière et qui doivent fournir de la musique parce qu'elles veulent monter leur groupe, parce qu'ils veulent monter leur groupe. Et du coup, on a entendu une musique qu'on connaît depuis 50 ans. La même, si tu veux, qui revient comme une espèce de truc maintenant qui est devenu un moule commercial, la musique modale, machin, parce que c'est on est un bon ou une bonne instrumentiste, mais on n'est pas forcément encore compositeur. C'est une vie de travail, quoi. Moi, je suis qu'un débutant là-dedans. J'ai encore plein de trucs à apprendre, tu vois. Et d'ailleurs, je continue, hein. Et donc, le résultat de l'incompétence de l'écriture de musiciens de composition moyenne donne une musique moyenne, comme on le voit dans toutes nos variétés françaises. Je n'ai rien contre la chanson, mais il y a des moules qui existent, qui sont des moules qui font que ça marche. Si tu veux, le producteur aujourd'hui en France commence à fonctionner à l'américaine en jazz, c'est-à-dire que si tu ne fais pas une musique grand public, hop, tu dégages. Donc malheureusement, il faudrait que les artistes, et j'espère que les femmes qui sont souvent les humains les plus mûrs qui soient dès l'adolescence ou à l'école quand elles sont jeunes, parce que moi, elles m'ont sauvé la mise dans des interventions scolaires très souvent, et le mec c'est un bourrin, quoi. Le mec il est là déconner avec les copains alors que la nana elle a envie de faire un truc bien, quoi. Nous on est déjà à l'ouest quand on est môme, tu vois. Ben, j'espère simplement que cette exigence de rester indépendant dans notre création va continuer. Parce que si on commence à la jeune génération à accepter le choix du producteur qui est un choix comptable plus qu'un choix artistique, on est mort, quoi.
Eh bien, merci Andy pour ta réponse très complète. Et même au-delà de... des sphères footballistiques. Alors ce soir, Pan Piper, double programmation avec le Mega Octet et Gross Rhythm. Comment s'est organisée cette soirée? Y a-t-il des connexions entre vous? J'ai un peu l'impression quand même. Et vous, tout simplement, vous connaissez-vous Andy alors?
C'est Xavier qui a eu l'idée de ce double plateau, donc je suis très très honoré parce qu'il m'a dit j'aime bien le Mega Octet.
Tu m'étonnes que j'aime bien le Mega Octet.
Et donc c'est... C'est un honneur, et puis en même temps, du coup, moi j'ai découvert sa musique, que je ne connaissais pas.
D'accord, ouais.
Et donc je suis allé à un concert, et c'est le meilleur moment pour découvrir la musique, c'est le live, hein, le disque, c'est difficile parfois. Mais pour ces musiques-là, ces musiques instrumentales que la France plébiscite à toutes les heures des médias qu'on entend tous les jours, c'est au concert qu'on entend vraiment ce qui se passe, quoi. Et là, je me suis régalé. Avec une belle équipe, ils sont neuf aussi, je crois.
Oui, on est neuf, ouais.
Et je me suis régalé parce qu'il y a une recherche, il y a un travail de complicité humaine aussi. Je retrouve les mêmes ingrédients un peu, paramètres par moment.
C'est le Mega Octet, en partie, qui a donné naissance au groupe. Ah, il y a 20 ans maintenant, Camille et moi, qui sommes les organisateurs du groupe, on bavait devant... Je me rappelle d'un moment où tu sais, c'était au moment à la FNAC où tu pouvais écouter les disques. J'ai un moment précis, je ne sais plus quel disque c'était pour le coup, mais Camille et moi, on se passait les écouteurs du Mega Octet, quoi. Et on était là, waouh, putain, trop bien. Et vraiment, c'est cette musique exigeante, instrumentale, qui avait des racines aussi dans ce qu'on aimait, nous, qu'on faisait, nous, quand on était jeunes, c'est-à-dire le rock progressif, ou en tout cas les influences un peu expérimentales dans le rock, on va dire. Qui a donné l'impulsion, si tu veux, de dire ouais, c'est possible, quoi. C'est possible de. Alors, peut-être pas d'en vivre, mais en tout cas de le faire de proposer ça et peut-être d'avoir un public qui suit, quoi.
Ouais, ouais.
Et du coup, moi, c'est un honneur complet de partager une scène avec le Mega Octet. Et c'est juste une envie, en fait. Moi, j'avais un contact avec le Pan Piper pour un concert qui s'est pas fait. Et j'ai fait jouer ce contact pour que ça se concrétise avec,
c'est génial.
Avec vous, quoi.
Tu vois, cette générosité qui est naturelle, en fait, c'est pas... T'as un concert, c'est rare à 9 musiciens en France, c'est pas facile. Ouais. Et tu sacrifies, enfin sacrifies entre guillemets, tu partages ce concert avec un autre groupe plutôt que de prendre toute ta soirée pour faire entendre ta musique. Pour ceux qui écoutent et qui aiment ces musiques-là et qui la pratiquent, exemplaire le Xavier là.
Ah, bah, bravo.
Exemple à suivre. Hein.
Ah, ça fait plaisir d'entendre.
Ah ben oui, attends.
Et alors du coup, qui sera en premier et qui jouera en deuxième?
Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est le Mega Octet qui joue en premier. Il
voilà.
N'y a pas de première partie, deuxième partie. C'est, ouais, c'est
les vieux d'abord, parce qu'ils se couchent tôt.
Les vieux d'abord. Du coup, on dit partira un peu tôt. Hein. Il ne va pas forcément écouter le concert.
Donc, il ne faut pas arriver en retard. Quoi.
C'est ça.
Bon, bah, super. Bon, alors, on va écouter deux morceaux de... On va commencer par le Mega Octet. Ben voilà, on va faire l'ordre du concert avec un court morceau qui s'appelle Minicrobe 2. Et puis on va enchaîner avec Ghost Rhythm Spectral Music. Donc c'est le titre du disque, du dernier disque.
Oui, exactement.
Et alors là, le titre en anglais, c'est Truthography.
Ouh là là, non, c'est pas du tout ça, c'est Photography.
Photography,
ça là, veut dire... c'est un jeu de mots entre photographie, donc voilà,
et
la pensée. En fait, c'est une histoire assez dingue, c'est dans les années 60, il y a un psychanalyste qui s'appelle Jules Eisenbaud, et qui s'est entiché d'un type qui s'appelle Ted Serious, qui était un ouvrier, je ne sais plus quel métier il faisait, et qui disait, enfin qui professait qu'il pouvait imprimer des photos par la pensée, sur des polaroïdes. Et du coup, il se concentrait très très fort sur des polaroïdes, et des images apparaissaient, et les deux ont fait un livre ensemble, ça a été toute une réflexion sur les phénomènes télépathiques, etc. C'est tout ce bouillonnement intellectuel des années 70 autour de questions à la lisière du paranormal, du surnaturel, mais c'est aussi des questions sociales, j'ai envie de dire. Il y a l'ouvrier, le psychanalyste. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche comme matériau. Tout quoi.
Et donc, on enchaîne les deux titres.
Yes.
Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et on reçoit aujourd'hui Andy Hemmler et Xavier Gélard. Alors, Xavier, on va parler de ton groupe Ghost Rhythm. Mais avant, à toi, je peux poser la question. Tu es batteur. Quel fut ton apprentissage de la musique ?
Moi, je suis autodidacte. Ah ouais. Je sais pas dire. La musique. J'ai tout fait à l'oreille. Enfin, j'ai commencé par la guitare avec mes frères dans ma banlieue parisienne. Là. Et ensuite, ma passion, moi, c'était la batterie vraiment. Et du coup, j'ai pu acheter une batterie en donnant des cours de guitare. Et vers 17 ans, j'ai acheté une première batterie. Et puis voilà, j'ai pas du tout suivi de cours. J'ai appris, je pense, à l'ancienne, en faisant des groupes et en apprenant voilà, sur le tas. Quoi.
Sur le tas. Quels étaient tes goûts musicaux lors de ta formation, pendant ta formation, dans ton adolescence, on va dire ?
Adolescent, moi j'étais exclusivement dans le rock et dans la pop. J'ai commencé avec les Beatles, et puis fatalement, ça m'a ouvert vers les musiques. Un peu étrange, je me souviens qu'une de mes sœurs m'avait filé une cassette de Genesis, de Selling England by the Pound, qu'elle trouvait insupportable, du coup. C'est moi qui en ai hérité. Et c'était pas forcément de mon goût au tout départ, mais j'étais vraiment sensible au fait qu'ils puissent se donner la permission de faire des choses. Mmh, tu vois ce que je veux dire ? Déjà des longs morceaux, déjà des narrations, et puis des passages instrumentaux. Long et un peu fou, une influence peut-être, alors dans Genesis c'est pas très très patent, mais peut-être dans la batterie de Phil Collins, quoi. Une influence du jazz qui était un peu perceptible. Voilà, et puis ça a commencé comme ça, et puis ça a continué sur ce modèle-là, jusqu'à ce que Camille et moi on découvre en gros, enfin Camille d'ailleurs, Camille qui est donc le pianiste du groupe, mm-hmm. Ghost Rhythms, qu'il découvre Steve Coleman, et là, waouh! Grosse claque, parce que la musique était super, mais aussi en ce qui me concerne, parce que c'était comme un pont que je découvrais entre les musiques que j'aimais et que j'aimais un peu en cachette, parce que c'était pas super glamour d'aimer le rock progressif dans les années 90, et un jazz exigeant, et avec des libertés, et puis une recherche, voilà. Alors je dis pas que Steve Coleman est fan de rock progressif, mais en tout cas, il y avait des ponts qui se faisaient. Et puis après, voilà, des choses que j'ai vues chez Magic Mavic aussi, et surtout dans le Mega Octet, cette espèce de... Voilà, ce permis de faire, quoi. Ce permis de créer, tu aimes le rock progressif, il n'y a pas de problème. Tu aimes le jazz, il n'y a pas de problème. Tu aimes aucun des deux et tu veux faire quelque chose à partir de ça, vas-y.
Voilà. Bah oui. Alors, comment s'est créé le groupe Ghost Rhythm ?
Eh bien, il s'est créé... un peu à la manière de tous les autres groupes que j'ai eus, c'est-à-dire que Camille et moi, on avait diverses expériences, de musique pour le coup progressive, et puis on avait exploré pas mal de choses, et en fait, on s'est dit, bon, allez, on a marre, on a commencé à se dire, faisons des boucles rythmiques un peu chelous, quoi, avec des rythmes un peu travaillés, et puis des recherches modales, un peu spécial, et invitons des musiciens qu'on ne connaît pas à venir improviser dessus. Et de fil en aiguille, cette expérience-là est devenue un groupe à part entière, puisque on a, comme dans toutes les histoires de groupes, il y a des affinités humaines qui se dessinent, et on a commencé à constituer un répertoire avec et autour de ces gens-là.
Ah oui, donc c'est ça vos... Moi j'aime bien savoir les bases esthétiques sur lesquelles les gens se regroupent, puisqu'on parle de groupe. Et c'était ça vos idées, c'était ces histoires de boucles là.
Ouais.
Est-ce que tu peux préciser, parce qu'on n'est pas dans une émission de spécialistes, tu sais, on
oui,
parle
oui,
entre nous. Mais il y a peut-être parmi nos auditeurs quelques musiciens.
Ouais, ouais. Ou... Bien sûr. Non mais c'est rien de très... C'est ce que le nom indique, quoi. C'est-à-dire que dans la musique, les choses qui se répètent, on appelle ça des boucles.
Ouais.
Voilà. Et du coup, là, l'idée, c'était d'avoir des motifs musicaux qui se répètent quasiment à l'infini et qui seraient la trame, le support, le tapis sur lequel des gens viendraient poser leur forme d'expression. Voilà.
Et puisque tu es batteur, au niveau rythmique, est-ce que ça implique des... moi, j'aime bien, par exemple, des 7 temps, des 5 ans, des 5 temps, des temps.
Ouais, ouais, ça, ouais. Bien sûr. Enfin, ce n'est que ça, d'ailleurs. Alors, j'ai envie de dire pas par élitisme, ouais. Mais peut-être qu'il y a un peu de ça, hein, j'en sais rien, je ne suis pas... Mais c'est aussi que, moi ce que j'aime bien, ce que j'ai toujours aimé, c'est le décalage de perception. C'est-à-dire que tu es dans une habitude d'écoute, ou de lecture, ou de compréhension de ton environnement, et il y a quelque chose qui fait que tu décales ce regard, ou cette écoute. Et donc... par exemple, moi, il y a un truc, je ne sais pas si ça arrive à d'autres gens qu'à moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive qu'à moi, mais j'écoute une musique à la radio, il n'y a pas la batterie, il n'y a que la basse, et systématiquement, je me trompe, c'est-à-dire sur l'intention rythmique qui est derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux deviner, voilà, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un moment où je me dis, bah, c'est marrant, je pensais que c'était ça le point de départ, puis en fait, c'est pas ça. Bon, c'est un peu technique, mais ce que ça induit, en fait, c'est que tu écoutes autrement, quoi.
Ouais. Et alors, depuis 2005, je crois que c'est 2005 la création du groupe, hein, vous avez sorti 6 disques, 6 albums, dont certains avec des thématiques, et notamment en 2015, Madeleine. J'aimerais bien... Alors, tu sais, je t'ai dit en antenne que je m'intéressais au cinéma, j'y travaille même. Et Madeleine était autour du film Vertigo. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, nous en dire quelques mots ?
Ah bah, c'est même pas autour, hein, c'était dans Vertigo.
Ah oui, c'est vrai.
Tout
oui.
de suite, parce qu'en fait, c'est une seconde bande originale. On a pris le film et on s'est donné le temps et on a fait une bande originale seconde, on va dire. Et l'idée qui présidait à ça, c'est aussi une histoire de perception. C'est-à-dire que si on change la musique d'un film, bien sûr qu'on change la manière dont on regarde le film. Et ce qu'on voulait faire, ce que je voulais faire en tout cas, moi, c'était donner la parole au fantôme qui est dans le film, qui n'existe pas en fait, hein, qui est un fantôme inventé de toutes pièces par... Enfin, je ne vais pas spoiler l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais
voilà. On l'a tous vu.
J'espère que vous l'avez tous vu, en tout cas. Oui. Bon, l'idée, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui invente une histoire de possession et qu'un inspecteur tombe dans le panneau. Et voilà. C'est un peu ça, la trame. Et moi, je trouve qu'il y a un véritable fantôme dans ce film, qu'il y a une véritable histoire de possession qui passe au second plan, à partir du moment où on a la révélation du complot. Et je voulais donner la parole à ce fantôme. Et j'espère, en tout cas, que ce qu'on a fait avec Madeleine... va dans son sens, c'est-à-dire vraiment permettre de voir le film avec ce regard de fantôme.
Oui, mais alors du coup, j'ai pas écouté l'album. Est-ce qu'on n'entend pas les paroles du
non.
film
Non.
Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que cette composition, c'est un double album, je crois, hein,
ouais.
a-t-il donné lieu à des ciné-concerts?
Ouais, ouais, bien sûr.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Ah oui, parce que... Alors, mon autre question, moi je me suis intéressé aux ciné-concerts et je trouve... voilà. Je voulais savoir votre approche. Est-ce que vous respectez l'œuvre cinématographique dans l'intégralité ou est-ce que vous permettez des remontages, par exemple ?
Non, Vertigo, on a fait en intégral. Oui.
Parce qu'il fait plus de 2 heures.
Deux heures. C'est pour ça que l'album est un double album. Oui.
Ah, d'accord. Ouais.
Okay. Ça couvre tout le film.
Ah, ouais,
du coup, quand on le jouait sur scène, et j'espère qu'on le rejouera sur scène, c'est une vraie chierie parce que c'est moi qui suis responsable des cuts. Enfin, pas des cuts, mais du fait de savoir quand lancer le morceau.
Bien sûr.
Pour que ça colle à l'image. Et je peux te dire que t'es bien tendu pour 2 heures, quoi.
Ah, ok. Alors, on va pas parler de tous les albums, mais il y a un autre album autour du cinéma, je crois, c'est...
Ouais, alors, il y a un album qui est pas autour du cinéma, mais qui s'inspire du cinéma, c'est le live à Yoshiwara. En fait, on voulait faire un live. C'était notre premier album sur le label Cuneiform Records, qui est un label américain.
Ouais. On va en reparler.
Qui est un label spécialisé dans les musiques vraiment aventureuses.
Ah oui.
Et voilà, dont le dirigeant, on va dire, est super sympa. Bon, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, ce live à Yoshiwara, on voulait faire un live mais un peu spécial. En fait, il y a toute une tradition des lives et on sait que les lives sont un peu trafiqués en général. C'est-à-dire que soit on pousse un peu les applaudissements, soit on travaille un peu les morceaux pour que ce soit plus audible, etc. Et du coup, nous, on voulait jouer avec ça. Et puis, ce qu'on avait aussi comme modèle, c'était Zappa. Parce qu'il a joué avec la xénochronie, c'est-à-dire qu'il a plaqué des solos de guitare qui n'avaient rien à voir avec un morceau. Il a joué avec cette notion de live et de plaquer des choses qui n'avaient rien à voir.
Ouais.
En tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, ok, on fait un live, mais on fait un live dans un lieu imaginaire. Et ce lieu imaginaire, on l'a tiré du film Metropolis. Parce que là-dedans, il y a le club Yoshiwara. C'est le club où tout le monde s'en canaille. C'est, le nom vient d'un quartier japonais, le quartier des prostituées en gros. Hein. Et c'est là où tout le monde s'en canaillait. Et du coup, ça a été repris par Fritz Lang et ça donnait ce club-là.
Ah oui, d'accord, dans Metropolis.
Yes.
Ouais. Alors, on va parler du dernier album, Spectral Music.
Ouais.
Et peut-être, toujours la même question, il faut citer le nom de tous les musiciens.
Mais tout à fait. Alors, tu veux que je le fasse ou tu
veux...
Oui,
vas-y.
Non. Ok, allez, on y va. Donc, Camille Petit au piano, Grégory Kozowski à la basse électrique, Nadia Mejri-Chapelle au violoncelle, Guillaume Aventurin à la guitare, Julien Bigorne à la flûte, Alexis Collin à l'accordéon, Morgan Lovenstein aux percussions, Maxime Thiébault au saxophone, et il me semble que je n'ai oublié personne.
Est-ce que le line-up du groupe a beaucoup évolué ?
Ouais, ouais, carrément.
Ouais, c'est ça.
Enfin, carrément, c'est pas vrai. Camille, moi, et Grégory, et Guillaume, sont, et Julien d'ailleurs, sommes là depuis le début, et il y a un saxo qui est parti, il y en a un autre qui est arrivé, le violoncelle est arrivé au moment de Madeleine, justement, pas avant. Les percussions sont arrivées un peu avant, me semble-t-il. Et puis voilà, et l'accordéon, c'est une addition entre guillemets récente. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est vrai que ce sont les derniers arrivés. Ouais.
On écoute un deuxième extrait de Spectral Music. C'est Spectral Music 2.
Ouais, il y a deux parties, ouais. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et aujourd'hui, nous recevons Andy Emler et Xavier Gélard. Et on parle du groupe Ghost Rhythm de Xavier Gélard. Alors, pourquoi le titre de l'album Spectral Music? Alors, il y a un rapport peut-être avec les fantômes,
je pense.
Mais tu sais qu'il y a aussi un courant musical qui s'appelle la musique spectrale.
Et, oui,
je me demandais s'il y avait une allusion à ça.
Bien sûr, il y a une allusion à ça. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la musique spectrale, et je pense que Camille pourrait vous en parler mieux. Moi, ce que j'ai retenu de l'idée de la musique spectrale, et c'est ce à quoi m'a initié Camille quand il m'a fait découvrir tout ça, parce que c'était un peu mon Virgile dans tout ce qui est musique classique, musique contemporaine, parce que c'est pas du tout ma culture. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un événement musical qui suivit une certaine évolution dans le temps, et que c'était cet événement musical qu'on tentait de faire jouer par les musiciens, mais surtout